France Musique. Les grands entretiens de Pablo Iras Casado.
Bonsoir, je suis Pablo Iras Casado. Je suis chef d'orchestre. Je suis né à Granada, au sud de l'Espagne, en Andalousie, au 1977.
Une question un peu de béotienne, Pablo Iras Casado, mais est-ce qu'un chef, à la manière d'un instrumentiste qui va noter sur sa partition des doigtés, lui, sur sa partition, note des gestes, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Quand je vous voyais diriger, par exemple, le Sacre du Printemps, j'imagine c'est à la fois hyper codifié avec l'orchestre, c'est répété, vous faites le même geste au même moment. Tout ça, c'est quelque chose qui est totalement spontané, ou il y a des moments où le travail avec l'orchestre fait que vous vous dites, il ne faut pas que j'oublie, là, il faut que je fasse tel geste pour que le départ soit bon, pour que... Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas du tout?
Oui, avec la musique un peu plus complexe, il y a. Avec l'expérience et avec le temps, quand on a fait beaucoup de répertoires contemporains, on a un catalogue de gestes très riche, parce qu'il faut trouver parfois des solutions concrètes pour certaines pièces ou pour certains styles, la façon d'indiquer quelques subdivisions, indiquer quelques... Il y a musique aléatoire, il y a polyrythmie. Et parfois, il faut créer un geste pour un moment donné. Il faut se accorder avec le musicien, dire non, mais ici, je te fais un geste pour démarrer cette section où tu es libre. Ici, je fais un geste pour sur la fermata. Je te coupe la note et je continue avec la main gauche. Voilà. Et après, et ça, on le note à la partition. On va faire ça. Il y a la celesta ou la contrebasse qui a besoin d'un geste pour moi pour démarrer ici, pour contrôler qu'ils sont ensemble. Et après, évidemment, sur la façon où on bat certaines mesures. Si on le fait, notamment les rythmes très complexes, le rythme, la polyrythmie, quand il a des mesures 5-16 ou 7-4, si on va faire 2 place 3, 3 place 2, ou on va faire 3 croches plus une noire, ça il faut le noter, il faut absolument le faire à chaque fois de la même manière. Après, les musiciens aussi vont s'habituer à ça. Normalement, la décision c'est toujours pour faciliter la compréhension rythmique, faciliter que les musiciens savent où ils se trouvent dans la mesure. Quand c'est une musique très complexe, ils doivent voir aussi, non, maintenant, on est dans les trois, dans les quatrièmes temps, là, c'est la prochaine mesure. Il faut toujours donner le 1 de la mesure très clair. Ce sont des questions fondamentales. Mm-hmm. Mais il ne faut pas changer ça, parce qu'on codifie, on accorde que c'est la meilleure option. Et là, il faut noter. Il faut noter tout ça et pas varier.
Pablo Iras Casado, vous parlez beaucoup d'organique. Alors évidemment, on pense à l'architecte espagnol, évidemment, on pense à Gaudi. Est-ce que vous vous sentez architecte? Est-ce que vous vous sentez sculpteur? Est-ce que vous vous sentez peintre? Comment est-ce que vous voyez la direction?
Pour moi, c'est très important et nécessaire, même nécessaire, de trouver des parallélismes, des connexions avec le monde esthétique, plastique, avec la musique. Je vois la musique aussi de cette façon. Moi, si je pourrais choisir ma prochaine vie, ma profession, ça serait architecte. Ça me passionne énormément. c'est très proche de la musique. Avec l'architecture, on modèle l'espace. On crée des espaces. Et l'espace, évidemment, est complètement comme la musique, comme le temps chez la musique, l'espace chez l'architecture est absolument relatif. Il n'y a pas une unité. Même si, évidemment, on mesure avec le métronome le temps, en comparaison à la structure des secondes, des minutes, on mesure en mètres, en kilomètres, mais finalement, avec la sensation, ça disparaît complètement. Et c'est fascinant comme une pièce d'Anton Webern, comme Schoenberg disait, je ne sais pas si c'était Schoenberg, si c'était quelqu'un après, mais il disait que Anton Webern, il avait le talent, la qualité d'écrire un roman dans un soupir. Et c'est vrai qu'il y a des pièces qui durent une minute et demie et qui tient l'impression d'avoir vécu une expérience complète. Et il y a des pièces qui durent 1h20 et que finalement ça racontait pas beaucoup de choses. Et
on a eu l'impression que ça en durait 2 heures.
Exactement. Et avec l'architecture, c'est le même. C'est l'illusion de. Avec la lumière, évidemment, avec l'espace absolu, c'est de créer l'atmosphère, c'est vraiment incroyable. Et je suis sûr que même. Évidemment, l'architecture a beaucoup évolué, et maintenant, notamment le XXe siècle, le XXIe siècle, on a ces bâtiments, ce sont des miracles.
Qui défient.
Qui défient toute la logique, les lois de
la gravité.
De la gravité. Et on est habitué à tout cet espace, à des tours de 800 mètres. Mais je suis sûr, comme je disais, que quelqu'un comme Monteverdi était absolument conscient et fasciné de l'architecture de San Marco quand il a composé sa musique. Et il a fait cette musique aussi en fonction de l'espace. De l'espace acoustique, bien sûr, mais aussi de l'espace physique et l'espace de l'émotion.
Oui, comme les Policoros de Gabrielli. Ou...
Évidemment, exactement.
Oh, oui, oui. Mm-hmm.
Mais en même temps, l'acte de diriger, pour moi, c'est très physique. Pour moi, c'est très important toujours de ressentir aussi la qualité physique du son, la densité, ou la légèreté, ou le poids. C'est nécessaire. Et c'est toujours à voir la musique, c'est, comme je disais avant, ce sont des gestes. Il faut accompagner une phrase avec le corps, il faut accompagner avec le souffle. Et avec la direction, je crois, c'est pareil.
Vous êtes gaucher?
Oui.
Ouais, c'est pour ça que vous dirigez sans baguette?
Peut-être c'est une des raisons. Et j'ai commencé à diriger avec varette au début. Bon, au début c'était avec le chœur ensemble. J'ai passé toute ma vie sans baguette. Mais après que j'ai commencé à diriger orchestre, j'ai utilisé la baguette. J'ai commencé avec la main gauche. Et je me souviens très bien d'un des profs que j'ai eu. Je suis allé à Vienne. Il est espagnol, mais il enseignait au cours d'été à l'université de Vienne. Et il m'a dit, quand je suis arrivé, c'était déjà un cours très important pour moi, je me suis préparé, il avait un orchestre avec lequel on pourrait pratiquer. Et il avait cette idée ancienne de deux entités, le chef d'orchestre et l'orchestre, et c'est toujours en lutte. Et dans cet esprit, il m'a dit le premier jour, vous donnez pas encore une raison aux musiciens pour vous haïr en dirigeant avec la gauche. Il faut le faire avec la droite comme tout le monde. Alors c'était déjà bon. Et c'était ce monde de la direction orchestrale, c'est cette idée que j'ai jamais compris et j'ai refusé à entrer dans cette dynamique. Mais je m'en souviens que je me suis allé chez moi et j'ai passé tout le soir et toute la nuit, j'ai changé tout, j'ai commencé à faire la gymnastique avec la main droite, avec la varette, essayer d'apprendre à... Voilà. Et ça, finalement, m'a donné aussi beaucoup d'indépendance et j'ai beaucoup pratiqué avec la droite. À bout de quelques années, de 2-3 ans, j'ai abandonné la baguette. Et je me trouve complètement à l'aise. Et jusqu'à présent, ça fait déjà, je crois, 15 ans que je n'utilise pas la baguette. Et ça va. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naturel. Si je prends une baguette, pour moi, c'est comme pas respirer à travers la main.
Les grands entretiens de Pablo Heras Casado, France Musique.
Dans ces grandes figures qui souvent sont quand même au panthéon de la direction d'orchestre, Pablo Heras Casado, quels seraient peut-être les vôtres? Je ne sais pas, Bernstein, Carlos Kleiber, Toscanini dans un autre genre, Bruno Walter, qui dans tous ces noms que j'ai cités, mais sans doute bien d'autres.
Moi, j'ai toujours eu l'impulse de voir beaucoup d'options et d'observer beaucoup à gauche, à droite et avec ses influences, ce panthéon de grands maîtres, c'est pareil. Il y a beaucoup de chefs qui m'ont beaucoup influencé. Et Carlos Kleiber, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas un seul chef qui n'est pas fasciné par Carlos Kleiber.
Vous, c'est quoi qui vous fascine chez lui?
Mais c'est la naturalité. Il est dans un état d'inspiration musicale constant qui est au-dessus de l'orchestre, des musiciens, de tout. Il est un musicien complet, honnête, pur et spontané, mais en même temps, évidemment, très, très subtil et avec beaucoup de contrôle, mais en même temps, ça ressemble absolument spontané, naturel et flexible. Et sa technique, évidemment, ça parle comme ça. Il trouve pour chaque moment, pour chaque pièce, pour chaque phrase, une solution qui accompagne musicalement et qui guide parfaitement les musiciens dans ce parcours. Ouais.
On a l'impression qu'il y a quelque chose de très important dans la direction d'orchestre, c'est l'invention en fait. Vous êtes tout le temps en train d'inventer.
Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. À chaque répétition, on doit chercher des solutions, on doit trouver des solutions ou des approches différentes, même avec des pièces qu'on a fait une centaine de fois. Mais il y a toujours un élément avec qui on ne comptait pas, qui nous fait devoir trouver une autre solution et d'inventer une façon de faire l'orchestre sonner un peu plus fluide à un moment donné, aussi physiquement. Et oui, je m'en souviens avec Simon Rattle, avec qui aussi j'ai une très relation, et c'est quelqu'un qui j'admire beaucoup aussi, fait partie aussi de ce panthéon. Et il disait, il y a des fois ça marche absolument, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi. Et c'est à travers l'expérience et les années qu'on a de plus en plus d'intuition.
Thank you.
petit à petit, on s'approche aussi hein, des moments où vous allez être nommé directeur musical, etc. Peut-être avant, un passage important, c'est 2004. Vous êtes choisi par Daniel Barenboim pour être l'un de ses directeurs à l'Est Ouest Divan Orchestra. Mm-hmm. Ça, c'est un moment important.
Ça, c'est important. Ça ne m'a pas changé mon parcours. Ça ne m'a pas porté dans une autre direction. Mais dans ces moments-là, oui, j'étais avec mes ensembles. J'ai fait des cours ici et là. Mais c'était une opportunité, le fait qu'il est venu en Andalousie avec West Eastern Divan Orchestra, de m'approcher et d'être près d'un des grands maîtres, un des légendes vivantes, et d'être présent dans un projet comme ça, avec des jeunes plus ou moins de mon âge, et avec ce répertoire, avec lui qui était un peu la figure importante, le maître, le père aussi du projet. Et c'était très intense. Et ça m'a ouvert aussi la vision musicale. J'ai déjà avait l'idée de poursuivre de peu à peu aussi ouvrir le répertoire, ouvrir les frontières, de commencer à diriger aussi plus la musique orchestrale et le répertoire symphonique important du 19e et 20e siècle. Et là, c'était un moment important. Après, oui, j'ai perdu le contact avec lui, mais ça m'a beaucoup influencé. Et après, on s'est retrouvé encore à Lucerne une fois, après 15 ans, je crois. Et d'un coup, il m'a dit, est-ce que tu es libre dans un an pour la fin de l'année pour Réveillon? Je dis, oui, mais parce qu'il m'a dit, je dois aller à Vienne à diriger le concert de Nouvel An. Alors, tu viens diriger mon concert de Nouvel An à Berlin, à la Staatsoper. Et à partir de là, on a recommencé l'amitié. Depuis là, on reste amis. J'ai beaucoup dirigé à la Staatsoper. Et même maintenant, quand j'ai commencé à diriger Barner, notamment le Ring que je dirige à Madrid, il reste toujours un bon conseiller. Parce qu'évidemment, il a tout fait. C'est un des grands Barneriens. Et c'est important maintenant de le voir à mon côté.
Et pour le Ring, peut-être aussi, Pablo Heras Casado, que vous pensez à Boulez, parfois.
Absolument, absolument. Et pour moi, j'essaie de voir si j'ai le moment de commencer une grande aventure musicale comme celle de Ring ou comme j'approche une grande pièce de répertoire. J'essaie aussi d'avoir des influences les plus différentes et extrêmes possibles. Parce que la tradition, on la connaît déjà, mais les innovateurs, les radicals, les gens qui ont ouvert les frontières de la pensée sur le répertoire, comme Boulez, comme Harnoncourt et d'autres, sont toujours des sources d'inspiration importantes. Et évidemment, pour moi, c'est important de connaître Knapperbusch, de connaître aussi Boulez, évidemment. Mais Barenboim, je te dis, mais Boulez aussi, évidemment. Mm-hmm. Parce que Boulez, on ne l'appellerait pas un Wernerien, mais il est un musicien. Je crois il ne faut pas être un Wernerien. Ou il ne faut pas être un Verdien pour faire de Verdi. Et ça ne m'intéresse pas du tout.
C'était un rendez-vous que vous attendiez, Pablo Heras Casado, Wagner?
Oui, tout à fait. C'était un rendez-vous pour lequel j'ai eu beaucoup de patience, ce qui m'arrive pas très souvent. Je suis impatient par nature et j'ai toujours été impatient pour faire les choses vite, pour faire beaucoup de répertoires et faire les choses après la première opportunité que j'avais de vraiment le faire. Mais avec Wagner, je n'ai jamais pressé le moment de ces rencontres. J'ai attendu. Et je crois, j'avais l'intuition de qu'il fallait le faire comme ça. Comme avec Bruckner aussi. Et j'avais raison, j'avais la bonne intuition parce que c'est là maintenant, après toutes ces années d'expérience opératique aussi, avec beaucoup de répertoires, mais aussi orchestral, et avoir aussi les convictions de faire les choses d'une façon personnelle. Et pour ça, il faut du temps. Et il faut du temps pour le faire d'une façon consistante, honnête et forte. Mais aussi, en même temps, pour moi, c'est fondamental aussi le fait que je le fais à Madrid, avec une grande maison d'opéra que je connais très bien aussi, connais bien l'orchestre, le Théâtre Real de Madrid. Je me sens chez moi, en même temps que c'est pour tout le monde, évidemment, un grand défi. Mais c'est le bon lieu pour le faire.
Votre rapport à l'enregistrement, quel est-il ? Vous enregistrez pour Harmonia Mundi, pour Deutsche Grammophon. C'est quelque chose d'important. On choisit les pièces qu'on a envie de graver, avec qui, comment.
Pour moi, c'est devenu une des parties les plus importantes de mon activité. Je commençais à enregistrer, peut-être ça fait 8 ans à peu près. Et j'ai eu la chance de créer cette relation vraiment magnifique avec Harmonia Mundi. Une façon extraordinaire est nécessaire de communiquer ce qu'on fait. C'est un élément avec lequel, si on fait un projet donné, si on enregistre, on a l'occasion de remonter, de multiplier l'audience par 1000, par 10 000, de transgresser la salle de concert et arriver à tous les coins du monde. Ça, c'est vraiment magnifique. Aussi, il y a une partie que c'est important, c'est le testament qu'on laisse. Il y a quelque chose qui reste là. Il y a une biographie à travers de répertoires, à travers des enregistrements qui c'est important aussi de. C'est un peu comme avec un peintre, le catalogue et la collection. Et ça, c'est quand même quelque chose de belle à avoir. Parce que, en différence avec la musique un peu plus commerciale, les enregistrements, ils meurent jamais. De répertoire, je parle de Mendelssohn, Monteverdi, Beethoven, ça meurt jamais. L'actualité passe jamais. Et en plus, j'adore le moment d'enregistrer. Pour moi, ça reste très très créatif. Je suis passionné de processus d'enregistrement, de détails, de la perfection, mais en même temps, d'essayer toujours de transmettre la force, le risque, la chaleur, tous les éléments vivants de la musique à travers de l'enregistrement. Et favoriser cette approche, enregistrement comme quelque chose qui transmet vie musicale.
Une chanson de Manuel de Falla par Marina Heredia et le Mahler Chamber Orchestra. C'est un extrait du tout dernier disque de Pablo Heras Casado pour le label Harmonia Mundi. Réalisation de ce 4e épisode des Grands Entretiens avec le chef espagnol Christine Amado, entourée de Jérémy Tuile, Pierrick Charles et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.